Théologie en liberté. Au micro, Joël Baumann. Aujourd'hui, je suis en entretien avec Antoine Nuis. Bonjour Antoine.
Bonjour Joël.
Dans cette émission, nous voulons parler de théologie, une théologie en liberté, comme le titre l'annonce, selon le titre là, une théologie ouverte donc. Nous ne sommes la voix d'aucune institution. Et comme l'écrivait un ami aujourd'hui disparu, Raphaël Picon, nous sommes tous théologiens, même en l'ignorant. Dès lors que nous émettons une idée, que nous formulons une image, une évocation de Dieu, même un agnostique fait de la théologie sans le savoir lorsqu'il dit que Dieu n'existe pas. Et, il émet une hypothèse invérifiable, tout comme de dire que
l'agnostique
Dieu existe.
L'agnostique ne dit pas que Dieu n'existe pas. Il dit qu'il ne sait pas. C'est l'athée qui dit que Dieu n'existe pas.
C'est ça, voilà. La différence entre l'agnostique et l'athée.
Absolument.
Voilà, oui, tout à fait. Et donc, nous allons essayer de voir comment nous pouvons dire Dieu, Antoine Nuis, aujourd'hui, à une époque où la religion est un peu bousculée et même discréditée, il faut le dire, hein, d'une manière générale. Alors, d'abord, une rapide présentation. Vous êtes marié, 4 enfants, vous êtes docteur en théologie, vous avez été pasteur en paroisse pendant 28 ans, directeur puis conseiller théologique de l'hebdomadaire protestant Réforme. Vous écrivez toujours dans Réforme d'ailleurs, et vous êtes le cofondateur avec Jean-Luc Mouton, un autre Nîmois, du site campusprotestant.com qui est devenu depuis peu Regard Protestant. Vous êtes connu pour être l'auteur d'une 20aine de livres sur la Bible, la spiritualité, le protestantisme. Alors, on ne va pas citer tous les ouvrages, mais un catéchisme protestant, c'est avec Michel Boutier, un ex-professeur de théologie. Et puis, on y reviendra, lettre à mon gendre agnostique pour lui expliquer la foi chrétienne. Ça, ça paraît intéressant pour nous, ici à l'antenne. Vous avez fini un commentaire intégral de la Bible. Bravo.
Merci.
Costaud. Et puis, bien d'autres ouvrages. Lettre à mon gendre, je l'ai dit, mais le dernier, c'est Lettre à mes enfants éloignés de l'Église pour leur raconter ma foi. Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'un pasteur peut avoir des enfants éloignés de l'Église.
Ah, malheureusement, il y en a beaucoup, vous savez. Hein, je ne vais pas vous parler des vôtres, je ne les connais pas.
Mais c'est pareil. légèrement, mais avec quelque chose quand même en eux, mais un petit peu loin de l'Église institutionnelle.
Alors, j'ai un peu triché, parce qu'en fait, j'ai un fils qui est pasteur. Alors lui, on ne peut pas vraiment
dire. Ah bon,
bon,
oui.
Mais enfin, j'en ai quand même 3 autres qui sont... Non, c'est assez intéressant, parce que je crois, comme vous le disiez, qu'ils ont quelque chose, enfin une profondeur. Enfin, moi, quand je vais chez eux, tout à coup, je suis surpris de voir qu'il y a la Bible sur la table de chevet. Mais c'est vrai que l'Église en tant que telle... ne les intéresse pas. Enfin, j'irais. Et je crois qu'ils vivent quelque chose de l'Évangile. D'ailleurs, ça se voit dans leurs engagements, dans leur façon de vivre et tout ça. Mais l'Église apparaît trop décalée par rapport à leurs envies, par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs préoccupations. Bon, il faut ajouter qu'aujourd'hui, les couples avec des enfants, les deux travaillent. Ils ont quand même des rythmes de vie qui sont assez chargés. Alors l'Église, ils ne sont pas contre, quand ils vont voir de temps en temps, on y va ensemble, ça fait plaisir, mais on ne peut pas dire que pour eux, ce soit une priorité.
D'accord. Et alors, on est dans d'une manière un peu plus large sur cette question-là. Ce Dieu-là, vous venez d'en parler un petit peu, nous sommes dans des cultures différentes quand nous parlons Église, quand nous parlons foi. Comment dire, dans notre culture, aujourd'hui, comment dire la foi? Comment dire Dieu, d'abord? La foi, on verra après, mais là, mais Dieu.
Comment dire Dieu? Eh bien, il faut au moins, au minimum, ne pas éteindre la question de Dieu. Je crois que la question de Dieu est une question qui est posée à tout le monde, qu'on y réponde en disant « j'y crois », qu'on y réponde en disant « je crois qu'il n'existe pas », qu'on y réponde en disant « je ne sais pas ». Mais derrière la question de Dieu, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait sur Terre? C'est pourquoi on aime, pourquoi on souffre, pourquoi on espère, pourquoi... voilà. Et que la plupart du temps, cette question, comme elle nous gêne un peu, eh ben, on la met au fond de notre poche, on la ferme bien et puis on essaye de l'oublier. Mais je crois que la question du sens est une question qui mérite d'être posée et qui mérite voilà, d'être réfléchi. Alors après, maintenant, nous, en tant que pasteur, en tant que théologien, on dirait, grattons un peu du côté de la Bible, des fois que cette question du sens trouverait une réponse à travers les Écritures.
Oui, parce que beaucoup d'agnostiques, donc, et d'incroyants également, trouvent un sens à leur vie, peuvent trouver dans un engagement, dans une approche de l'autre, etc. On n'a pas besoin d'être chrétien pour ça.
Absolument. Moi, je crois que... Alors, la vraie question, pour moi, la question de la foi, la question fondamentale et que j'ai envie de poser, c'est de dire, quand je regarde mon existence, quand je regarde mes rencontres, quand je regarde... je m'aperçois qu'à des moments, j'étais traversé par le beau et le bon, enfin, je veux dire, et il s'est passé dans toute vie, quelle qu'elle soit... Il y a des choses qui sont merveilleuses, qui sont belles, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on considère que c'est des coups de chance, que qu'on est béni par qui ? Par la nature, je sais pas quoi, et qu'on en profite ? Ou est-ce qu'on se dit, il y a peut-être une parole qui m'est adressée à travers le beau et le bon, et cette parole, elle mérite d'être creusée ? Et c'est à partir de là que moi, j'ai envie de poser la question de Dieu aujourd'hui, c'est, regarde, relis ton histoire, regarde ces moments où tu as été traversé par... ce que en théologie nous appelons la grâce, donc ce que j'appelais tout à l'heure le beau et le bon, et qu'est-ce qu'on en fait du beau et du bon. Il me semble que ça, c'est, ouais, ça peut être une façon d'aborder la question de Dieu.
D'accord. Et alors, il y a si votre c'était quoi votre gendre agnostique était un peu un scientifique, je crois. Enfin,
tout à fait.
Il a fait des études.
Oui, c'est un grand chercheur. Oui.
C'est un grand chercheur. Oui. Voilà. Oui. Comment lui parler d'un Dieu créateur?
Alors, je crois que la question. Alors, la question, c'est, je pars pas du Dieu créateur. Moi, je pars de qu'est-ce qui nous est dit dans les Écritures sur Dieu. Et vous savez, en gros, quand on pose Dieu, il y a, pour faire très schématiquement, il y a deux façons d'appréhender Dieu. La première façon, c'est à partir de nous, à partir de notre humanité, et la façon un peu classique, c'est de dire. On prend notre humanité, on prend tout ce qui est en manque dans notre humanité. Alors, l'humain, c'est quelqu'un d'imparfait, c'est quelqu'un de mortel, c'est quelqu'un qui ne connaît pas tout. Et puis, on essaye d'imaginer un être qui ne possède aucun de ses défauts. C'est-à-dire qui serait parfait, qui serait immortel, qui serait tout, qui serait omniscient, omnipotent, dit tout ce que vous voulez. Et puis, voilà. On se crée comme ça un personnage imaginaire, et puis là-dessus, on colle l'image de Dieu, on dit « ça c'est Dieu, qu'est-ce que je fais de ce Dieu-là »
Un Dieu encombrant dans ce cas-là.
Voilà. Oui, un Dieu encombrant, et un Dieu qui est un peu quand même le fruit de notre imagination, ou de notre savoir. Et que, je crois que, puisque vous parliez de mon gendre qui est scientifique, aujourd'hui, ce que la science nous apprend, nous révèle, c'est que l'homme est une toute petite chose dans l'univers, dans l'humanité. Je veux dire, c'est une petite crotte de mouche dans une Terre qui elle-même est une planète totalement quelconque au sein d'une étoile, laquelle étoile appartient à une galaxie, qu'il y a des milliards de galaxies. Enfin, et si on peut imaginer un Dieu qui est créateur de tout cela, mais la distance entre Dieu et l'humain est infinie, si bien que de par lui-même, l'humain ne peut pas dire grand-chose sur Dieu. Et que tout ce qu'il peut dire sur Dieu, ce serait simplement la projection de ses propres fantasmes ou sa propre imagination. Et que, en revanche, la démarche croyante, enfin pour nous protestants en tout cas, c'est de dire que de Dieu, en tant que tel, nous ne pouvons rien dire. En revanche, nous pouvons nous mettre à l'écoute de ce qu'il nous dit de lui-même. Et en tant que protestants, nous croyons que ce qu'il nous dit, c'est à travers les Écritures. En sachant que les Écritures ne nous disent pas tout de Dieu, parce que ça ne nous est pas accessible, mais l'Écriture dit après ce que nous avons besoin de Dieu pour pouvoir vivre, pour pouvoir espérer, pour pouvoir... Voilà. Et donc, je dis à mon gendre, il y a une énigme qui est à l'origine de tout ça, il y a un des lieux qui essaye d'explorer cette énigme, ce sont les Écritures, est-ce que ce que disent les Écritures sur moi, sur ce que je suis, sur quelle est ma vie, est-ce que ça fait sens ou que ça ne fait pas sens, et je dirais que c'est dans cette démarche-là que j'aborde la question de Dieu avec mon gendre.
Alors, ce qui n'est pas dans le livre, c'est la réponse du gendre.
Alors, ce qui n'est pas dans le livre, c'est la réponse du gendre. Alors ça lui appartient, je ne répondrai pas pour lui.
Comment l'a-t-il pris, ce livre ?
Alors ça, c'est assez marrant. ça, c'était assez marrant parce que, alors, entre vous et moi, donc, je ne lui ai pas dit que j'ai offert ce livre, enfin, que j'ai rédigé ce livre et que il n'en a connu l'existence que quand il l'a eu entre les mains.
D'accord.
Et alors, une semaine auparavant, je dis à quelqu'un qui était un peu dans la confidence, qui m'avait un peu accompagné dans ce livre, ah ben voilà, la semaine prochaine, je vais présenter mon livre à mon gendre. Et il me dit, il est au courant? Je lui dis, ben non, c'est une surprise. Et à ce moment-là, la personne me dit, mais tu sais qu'il pourrait mal le prendre? Oh, j'ai jamais imaginé ça, qu'il puisse mal le prendre. Je dis, oh là 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 là. Je dis, ah ben oui, c'est vrai, après tout. Ouais. Donc, quand j'arrive le livre, j'arrive avec des pincettes, je marche et je dis à lui et à ma fille, voilà, j'ai un cadeau pour vous, mais c'est un cadeau un petit peu spécial. Sachez que c'est avec tout mon amour, j'espère que vous prendrez pas mal. Enfin, je prends plein de précautions. Et à ce moment, ma fille me dit, bon alors, qu'est-ce que c'est, un cadeau beaucoup de façon, si ça nous plaît pas, ben, on va dans le jardin, on fait un trou, on le creuse dedans, on l'enterre, on n'en parle plus. Je lui dis non. Il dit, comme ça, non. Non, tu peux pas. C'est quoi un cadeau qu'on ne peut pas enterrer? Ben, voilà, donc, je lui ai donné le livre. Alors, il a éclaté de rire. Il l'a lu. Il m'a dit qu'il s'était senti que... Il avait eu un tout petit peu peur, un tout petit peu, que je le rabaisse, que je le prenne un peu pour un imbécile. Enfin, ouais. Je veux dire que pour me mettre en avant, je le rabaisse. Et il m'a dit qu'il s'était senti tout à fait respecté dans ce livre et que ça faisait effectivement écho à des conversations que nous avions eues. Et finalement, aujourd'hui, je dirais que, assez curieusement, parce qu'il reste agnostique, à la différence de ma fille qui, je pense, est un peu plus croyante, mais presque il est plus attaché que ma fille de donner une instruction religieuse à leurs enfants, parce qu'il dit « je vois bien que là, il y a quelque chose d'important et je voudrais donner la chance à mes enfants de pouvoir explorer ça ».
D'accord. Alors, que ce soit dans ce livre-là ou dans ce livre-ci, qui est « Lettre à mes enfants éloignés de l'Église » et qui est le dernier paru,
oui.
Aux éditions Labor et Fides, faut quand même dire où se trouve ce livre et cette collection. Que ce soit dans l'un ou dans l'autre, vous exprimez votre propre foi, votre conviction, comment vous la vivez, et... Comment vous la vivez? Vous la vivez en Jésus-Christ. Alors, ce Jésus-Christ, qu'est-ce que vous en faites dans votre foi?
Alors, voilà, le titre, hein, « Lettre à mes enfants à l'Église », pour leur raconter ma foi.
Raconter.
Et le verbe « raconter » est très important parce que dans la foi, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais qui peuvent se raconter. Hein. Donc, moi, ce que j'ai essayé de raconter, c'est comment... Bon, j'étais... Je suis au jour de la retraite, mais je peux même considérer que je suis toujours un peu pasteur, un peu théologien. Bon, être pasteur, c'est quoi? C'est essayer de mettre sa vie au service de cette parole de l'Évangile, alors de cette parole qui nous parle à travers le Christ. Et dans ces livres, j'ai essayé de raconter comment moi, et puis je peux inclure mon épouse parce qu'elle est indissociablement liée à mon ministère, on a essayé de vivre cette foi. Maintenant, pour répondre plus précisément à votre question, à la place de Jésus-Christ. Alors, je disais que Jésus-Christ, c'est quand même un truc incroyable. Jésus-Christ, c'est quand même le cœur de la foi chrétienne, c'est de dire Jésus de Nazareth n'est pas simplement quelqu'un qui a particulièrement bien compris qui est Dieu, c'est pas un prophète, c'est pas un sage, etc. Mais il est Christ, et Christ, ça veut dire, alors étymologiquement, c'est celui qui est le oint, celui qui est oint, celui qui est béni, béni de Dieu, mais surtout, dit la foi chrétienne, qu'il est Dieu venu planter sa tente au milieu des hommes, Dieu venu habiter notre monde. Et Jésus-Christ, c'est cette histoire, mais quand on y pense, qui est totalement incroyable, que un Dieu créateur du ciel et de la terre, qui est origine de tout, quelque part renonce à une part de son humanité pour venir rencontrer les humains dans leur existence. Et puis, alors, nous le savons, jusqu'à en mourir sur une croix. C'est-à-dire qu'un Dieu qui meurt, je veux dire, c'est juste pas... habituellement, quand on regarde dans les mythologies, les dieux, ils sont dieux du ciel, ils jouent un petit peu avec les humains. Dans les mythologies grecques, des fois, ils tombent un peu amoureux des filles, des humains, quand ils ne sont pas trop moches. Alors que là, ce n'est pas ça. C'est un dieu qui se donne lui-même. Et là, il me semble qu'il y a quelque chose d'incroyable. Et dans la Bible, quand on nous dit pourquoi Dieu se donne-t-il lui-même, Eh bien, la réponse, c'est parce que Dieu est amour. Hein. C'est-à-dire quelque voilà. chose qui dit qu'un Dieu dont l'amour est suffisamment fort pour se donner lui-même, pour donner ce qu'il a de plus cher, de plus précieux, pour moi, humain, petite chose comme ça, dans l'humanité, là, il y a quelque chose d'un peu incroyable.
Mmh. Ce portrait c'est un portrait de Dieu qui nous est fait, un petit peu une esquisse de Dieu qui nous est fait en Jésus, c'est ça, et c'est à travers lui, c'est pour ça qu'on prie, que les chrétiens prient au nom de Jésus-Christ, le Dieu Père.
Parce que, comme je disais tout à l'heure, de Dieu lui-même, de nous-mêmes, on ne peut pas en dire grand-chose. En revanche, on peut dire ce que Dieu a dit de lui-même à travers les Écritures, et le cœur des Écritures, c'est que ce Dieu-là est venu jusqu'à nous en Jésus-Christ, c'est-à-dire que c'est par et à travers Jésus-Christ que nous pouvons avoir accès à ce Dieu des Écritures.
Alors, il y a sûrement des auditeurs qui diront « Moi, j'aimerais bien avoir la foi, mais je ne l'ai pas. » Alors, on va parler de la foi après une pause musicale. Théologie en liberté, vous êtes sur Radio Alliance Plus et nous sommes en entretien, Joël Baumann, avec Antoine Nuis, qui est docteur en théologie et qui a écrit beaucoup dans le journal Réforme en particulier, mais aussi quelques ouvrages et un en particulier, celui que j'ai en main, « Lettre à mes enfants éloignés de l'Église pour leur raconter ma foi ». Alors la foi, ça se raconte, donc nous étions en train de dire, mais quid de ceux qui n'ont pas la foi, qui peuvent se dire, mais cette foi, elle est donnée comme ça à certains, il y a des élus, et puis il y en a d'autres qui passeront toujours à côté. Vous dites, vous écrivez dans votre livre, « Dans la foi comme dans l'amour, je suis ému par le coup de foudre, mais j'ai appris à m'en méfier. La foi est toujours une histoire d'amour. » Elle est la reconnaissance que ma vie et mon histoire sont entourées dans le temps et dans l'espace par une parole, une présence, une grâce qui m'accueille inconditionnellement et qui m'envoie. Il faut connaître l'amour pour pouvoir saisir la foi.
Alors bon, certes, il y a une très grande proximité entre la foi et l'amour. Alors la question que vous posez, la question initiale en disant « Et qu'en est-il de ceux qui n'ont pas la foi, qui voudraient bien mais qui n'ont pas ?» Là, je veux dire que c'est quelque chose qui ne m'appartient pas. En bonne théologie, on dit que la foi est donnée par l'esprit. Pourquoi certains entendent une parole et d'autres pas ? Là, il y a quelque chose qui est pour moi du registre de l'énigme sur lequel je n'ai pas...
On peut être dans une culture.
Je n'ai pas grand-chose à dire. Voilà.
On peut être dans une culture chrétienne, avoir un héritage culturel. Voilà. Mais ce n'est pas ça qui fait la foi.
Moi, ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de dire quand même, c'est... c'est la foi... la foi... Ça s'essaye. Et dans mon livre là, sur le genre agnostique, ce que j'ai envie de dire, c'est que, enfin, ce que je dis à la fin, c'est que je dis à mon genre, voilà, maintenant j'ai essayé, moi, de t'exposer, de mettre toute mon intelligence au service de comment dire Dieu en 100 pages. Hein, le bouquin, c'est un petit bouquin qui fait une centaine de pages. Maintenant, le reste, c'est le rapport de toi avec toi-même, de toi avec, avec tes questions, de toi avec ta liberté, de toi avec Dieu. Et ce que j'ai envie de dire, c'est de dire, bah, écoute, la seule chose que je peux te dire, c'est que essaye de tu prends un temps, tu prends 2 mois, 3 mois. Tous les matins, ben, tu commences ta journée en lisant une page des Écritures, et puis en te disant, est-ce que cette page me rejoint ? Et puis, tu présentes ta journée en disant, voilà, aujourd'hui, j'ai une nouvelle journée qui commence, comment est-ce que je vais l'habiter ? Comment est-ce que je vais la traverser ? Et puis le soir, tu relis ta journée, et puis tu rends grâce, tu dis merci pour ce qu'il y a eu de beau et de bon, tu demandes pardon pour ce qui a été raté, tu essaies de réfléchir en disant quels sont les gens que tu as aimés, que tu n'as pas aimés, comment tu as réussi. Essaye de faire ça pendant un certain temps, et puis au bout d'un moment, regarde si ça t'aide à vivre, regarde si ça met du sel à ta vie, regarde si ça donne du sens à ta vie. Voilà, et que c'est à chacun de vous de voir si essayer de mettre son existence, ses journées en regard avec l'Évangile, si c'est quelque chose... Moi, je peux dire que pour moi, ça donne du sel, du sens, de l'épaisseur, de l'intérêt à mon existence. Et la seule chose que je peux dire, c'est de dire essaye, et puis regarde si c'est pour toi ou pas. Voilà, Mais je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Je veux dire, on ne donne pas la foi comme on donne un billet de 50 euros ou que sais-je encore. Quoi. C'est...
Alors, on parle de sens de la vie, là. Vous citez Goethe, qui a écrit « L'homme le plus heureux est celui qui peut relier la fin de sa vie à son commencement ». On peut commenter ça ?
Ah oui, ça me paraît très juste. De temps en temps, voilà, bon, aujourd'hui, je commence à avoir un certain âge, je suis grand-père plusieurs fois, pour vous situer, de temps en temps, je me pose la question... Qu'est-ce que l'homme que j'étais quand j'avais 20 ans dirait de celui que je suis devenu quand j'en ai 65 ? Hein ? C'est-à-dire, est-ce que je peux inscrire ma vie dans une trajectoire ? C'est-à-dire que, est-ce que ma vie, c'est une succession de petits moments plus ou moins sympas ou plus ou moins difficiles ? Ou est-ce qu'il y a une ligne, il y a quelque chose qui trace ma vie à travers mes fidélités, à travers mes engagements, à travers mes préoccupations. Et je crois que la foi nous aide à relire notre propre histoire et à trouver une sorte de cohérence globale à son existence. Il y a un passage que j'aime bien, c'est dans l'Épître aux Galates. Donc l'apôtre Paul, à un moment, l'apôtre Paul raconte sa propre démarche de foi, il raconte comment il était enfant, puis comment il était pharisien, et puis comment il était converti. Et au moment où il s'est converti, peut-être une trentaine d'années, il dit les choses suivantes. Il dit « Quand celui qui m'avait mis à part dès le ventre de ma mère a cru bon de se révéler à moi », je suis rentré dans une démarche de foi. C'est-à-dire que Paul a découvert le Christ, on va dire 30 ans, je ne sais pas quel âge il avait, mais enfin il était adulte en tout cas, et déjà bien en activité, mais il a compris, quand il a été rencontré par le Christ, que ce Christ-là l'accompagnait depuis le ventre de sa mère, c'est-à-dire accompagnait son histoire, et quelque part il a pu inscrire cet événement, qui est un événement de rupture dans son propre parcours, dans une histoire qui commençait au ventre de sa mère. Eh bien, peut-être que la foi donne ce bonheur, si on fait référence à cette citation de Goethe, que la foi nous permet d'inscrire l'ensemble de notre existence dans un mouvement et de découvrir que nous avons été aimés par Dieu avant même que nous n'en avions conscience et que nous sommes destinés ou promis au-delà de notre vie, au soir de notre mort, à aboutir dans l'amour de Dieu.
Oui, et c'est pas une contrition la foi, c'est une confiance, c'est le même mot, c'est la confiance. Donc c'est simplement une ouverture en fait, c'est ça.
Je crois que c'est une ouverture, mais c'est une ouverture qui est à la fois une exigence parce que c'est mais qui à la fois donne du sens, donne une cohérence, et donc, par rapport à cette citation, donne du bonheur.
Voilà. Très bien. Et alors, il y a un chapitre sur la grâce. Alors là, c'est un peu plus difficile, parce que la grâce, c'est la gratuité de cette foi qui est donnée. Qu'est-ce qu'on fait de cette gratuité ? On est là dans l'ordre du cadeau. Qui dit cadeau, dit reconnaissance, au minimum, c'est ça ?
Alors souvent, moi, je peux confondre la foi avec la reconnaissance, hein, avec le rendre grâce. Vous évoquiez la grâce tout à l'heure. Je réponds à la grâce par l'action de grâce, c'est-à-dire par le rendre grâce. Être capable, voilà, comme je disais tout à l'heure, de dire merci pour tout ce qu'il y a de beau et de bon dans mon existence, et que la foi se confond avec cette capacité d'émerveillement et de reconnaissance. Hein. Et reconnaissance, d'ailleurs le mot est ambivalent, hein, parce que le mot reconnaissance c'est à la fois être reconnu, je me sens reconnu, et parce que je me sais, parce que je me sens reconnu, alors je peux moi être capable de reconnaissance, c'est-à-dire être capable de gratitude, être capable d'action de grâce.
De reconnaître le donateur aussi peut-être.
Absolument. Et parce que je reconnais le donateur, je suis reconnaissant vis-à-vis de ce donateur.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et puis, d'ailleurs, c'est marrant parce que dans le mot reconnaissance, il y a encore un troisième sens. C'est partir en connaissance, c'est partir en exploration. C'est-à-dire qu'être reconnaissant, parce que je suis reconnu, ça me permet aussi de partir en reconnaissance sur des nouvelles voies et qui sont toutes les voies qui s'ouvrent devant moi.
Partir en aventure.
Ouais.
Alors, on est très proche d'un autre mot qui se trouve aussi dans ce livre, dans un chapitre, c'est le mot « liberté ». Alors, ce mot « liberté », il est très peu employé dans la Bible, on parle plutôt de libération. On est toujours libéré de quelque chose, mais du coup, on est contraint dans autre chose. On n'est jamais libre, purement libre. En tant que croyant, on accepte d'avoir un autre maître, en fait. C'est un peu ça.
Oui.
Alors, choisis ton maître, camarade.
Non, alors oui. Alors, je dirais. Alors, c'est vrai qu'autour de ce thème de la liberté, il y a une espèce d'énorme malentendu. Parce que, quand on y pense, la plupart du temps, aujourd'hui, dans la société, quand on entend le mot liberté, c'est « je veux être libre ». Et « je veux être libre », ça veut dire quoi ? « Je veux ne pas avoir de contraintes ». Ça veut dire quoi ? C'est la caricature... adolescente, et pardon pour les adolescents, mais c'est la caricature adolescente de celui qui dit « j'exige la liberté de pouvoir penser exactement la même chose que les gens de ma génération, de m'habiller de la même façon, d'écouter la même musique et d'avoir les mêmes loisirs. » C'est-à-dire, j'exige la liberté d'avoir une vie qui est totalement conforme à ceux de mon groupe ou à ceux au milieu desquels je vis. Je crois que ça, c'est évidemment pas la liberté, c'est une fausse liberté. Ouais. La vraie liberté, c'est tout autre chose. La vraie liberté, c'est être capable, justement, de sortir du moule, de sortir de la foule. Être capable de dire non quand tout le monde dit oui, de dire oui quand tout le monde dit non. Et ça, c'est beaucoup plus exigeant.
Mais on va rester sur cette exigence. Antoine Nuis, merci beaucoup pour ce temps consacré à essayer d'évoquer cette lettre aux enfants éloignés de l'Église, à mes enfants, dites-vous, éloignés de l'Église, pour leur raconter votre foi. C'est un livre qu'on trouve donc chez Labor et Fides. Nous avons fait comme ça un petit peu un premier parcours, on va dire, de la foi jusqu'à la grâce et jusqu'à la libération. C'est un gros programme, un beau programme qu'on peut revoir ensuite beaucoup plus profondément, mais déjà une bonne avancée dans cette aventure de la foi. Merci Antoine Nuis. Vous étiez sur Radio Alliance Plus, Théologie en liberté. J'étais Joël Baumann en entretien avec Antoine Nuis. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur radioallianceplus.fr. Et à bientôt. Au revoir.